Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, Caroline Bonin, mais aussi Sarah Gijaco, Tiphaine de Rocchini, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Jacques Ezubert. Dernier volet donc de notre série consacrée au travail, aux évolutions auxquelles il est soumis et à la manière dont il convient de le repenser. Après avoir évoqué le revenu universel, le travail de la terre ou encore les inégalités femmes-hommes face à l'emploi, nous allons nous pencher ce matin sur ce que le cinéma nous dit du travail. Le précariat dans l'œil de la caméra, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Avant tout pour se protéger du milieu qui le fait vivre. Mais il en garde la nostalgie et s'empare de la nature pour la recréer à l'échelle de la ville. Il ne devrait cependant jamais oublier ce qu'affirmait un jour Le Corbusier dans la charte d'Athènes. Le soleil, la verdure et l'espace sont les trois premiers matériaux de l'urbanisme.
I'm 33, Rose. I mean, I'm 12 grand in debt. I've got a string of credit cards. One shitty job after another. What the fuck are you doing?
All these European workers set up, ready to go right now. But the good thing, what you're like to know.
Section 5, speed her up, 4-1.
Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
Dans l'ordre Humain trop humain, documentaire de Louis Malle, 1974, cette plongée dans une usine automobile, en l'occurrence Citroën, dans laquelle le spectateur prend conscience de la pénibilité du travail de ses ouvrières et de ses ouvriers, de ce que peut produire comme aliénation, la répétition des mêmes gestes tout au long de la journée. It's a Free World également, un film britannique réalisé par Ken Loach, sorti en 2008, dans lequel on découvre Angie, une jeune mère issue d'un milieu modeste et qui doit enchaîner les emplois ingrats et sous-payés avant de décider de créer sa propre affaire, mais qui, dans le rôle de chef d'entreprise, aura bien du mal à tenir ses ambitions en matière de justice sociale. Et puis, les temps modernes, évidemment. Le dernier film muet de Charlie Chaplin, 1936, la référence cinématographique historique dans le domaine de la satire du travail. Trois exemples d'œuvres cinématographiques qui ont abordé la question du travail à 30-40 ans d'intervalle. Trois époques différentes donc, qui révèlent des évolutions, mais aussi des constances dans la manière dont l'œil de la caméra capte l'emploi et ses effets sur les travailleurs. Alors que nous disent justement ces différentes visions ? Comment filmer le travail? Pour montrer quoi? Quels sont les systèmes de représentation qui s'en dégagent? Qu'est-ce que le cinéma révèle de l'évolution du monde du travail et des crises qui le secouent? D'ailleurs, la crise économique a-t-elle entraîné un retour en force de ce thème à l'écran? Quels sont les genres concernés? Qu'est-ce que la fiction permet de dire de plus ou de différent par rapport au documentaire? Et qu'est-ce que le film peut apporter aussi à la sociologie du travail? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous. D'abord, Charlotte Garçon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma, vous êtes coordinatrice des pages cinéma de la revue Études. Vous participez régulièrement, on vous entend sur cette chaîne dans La Dispute. Et puis, vous écrivez également dans la revue Images Documentaires. À vos côtés, depuis Poitiers en duplex, Jean-Paul Géin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Poitiers et puis cofondateur d'un festival dont on parlera aujourd'hui, Filmer le travail. Alors, d'abord, peut-être on va commencer avec ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire les temps modernes, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de constater combien aujourd'hui encore l'image que l'on se fait du travail a été façonnée d'une certaine manière par les représentations proposées par Charlie Chaplin en 1936. Alors même que, évidemment, le travail contemporain ressemble globalement assez peu à cet ouvrier burlesque joué par Charlot. C'est vrai que cette image du travail à la chaîne est encore extrêmement prégnante dans nos images. Charlotte Garçon, comment le comprendre?
Mais d'abord, Charlie Chaplin avait visité une ligne d'assemblage et c'est ce qu'il avait marqué en 1921. Donc ça l'avait assez frappé. Donc il y a quand même un lien. C'était la ligne d'assemblage de fabrication de la Ford T, du modèle T de Ford. Et c'est vrai qu'on a ces images qui sont devenues iconiques du travail à la chaîne qui rend fou, enfin qui déshumanise, disons, le geste humain. et qui transforme l'homme en machine. Mais heureusement, grâce à son personnage de petit vagabond de Charlot, il y a une résistance du corps. Et il y a notamment aussi tout un travail de ballet. Enfin, il y a de la danse à l'intérieur de l'usine. Donc en fait, ouais, le corps de l'ouvrier résiste quand même à cette mécanisation.
Ouais, résistance du corps, en effet. Et puis aussi, il y a peut-être un autre élément, Jean-Paul Léger, hein, c'est que finalement, tout ça s'inscrit parfaitement dans toute une série de critiques des effets négatifs du travail et du système capitaliste, de la domination en gros des patrons sur les ouvriers. Au fond, Chaplin est parvenu à mettre en image d'une certaine manière ce que Karl Marx avait théorisé avant lui, d'une certaine manière, Jean-Paul Géhin.
Oui, certainement. D'une certaine façon, le cinéma était censé représenter le travail tel qu'il est. Et ce qui était vraiment formidable, c'est qu'il a inventé des représentations du travail. Il a inventé des images du travail, des représentations qui sont dominantes. Et celle de Charlie Chaplin est complètement, aujourd'hui encore, très présente. Hein. Le travail est toujours mécanique, manuel, en tout cas représenté comme tel, mécanique, manuel. Les engrenages dans lequel il est enserré. Voilà, c'est cette image-là qui reste dominante. Et voilà, c'est quelque chose qui...
Par ailleurs, il n'a pas été le premier, en réalité, à le faire. Il y avait déjà eu des films autour du travail. Je pense à Metropolis, par exemple, un film de cet Autrichien Fritz Lang de 1927, qui est cette dystopie qui se déroule en 2026. On est bientôt avec cette société divisée en deux, avec d'un côté la ville haute où vivent des familles intellectuelles et puis une dirigeante, évidemment, qui vivent dans l'oisiveté et le luxe, et puis cette ville basse où vivent là les ouvriers opprimés. Donc, il y avait déjà eu ce traitement du travail dans le cinéma.
Oui, alors des ouvriers en bas avec des robots et qui se battent aussi avec des robots. C'est dans ce film-là qu'on voit le premier robot au cinéma.
Finalement, Jean-Paul Géhin...
Sous forme androïde, ouais.
C'est pas aussi étrange de constater que le travail a rapidement été un thème de prédilection au cinéma, parce que d'un point de vue historique, finalement, le travail, en tout cas dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et la forme qu'il a pris, évidemment, avec la révolution industrielle, c'est évidemment au même moment qu'apparaît le cinéma. C'est-à-dire qu'à l'époque, les deux, et le travail et le cinéma, participent finalement d'une même logique de modernité.
Une histoire commune, ça c'est sûr, c'est une longue histoire commune. Et bon, on le dit toujours, le premier film tourné à Lyon, les Usines Lumière, la sortie des ouvrières des Usines Lumière, est un film sur le travail. Alors plutôt, d'ailleurs, un film qui va être plutôt un film patronal, dans la mesure où on ne voit pas le travail, et dans la mesure aussi où on a déjà, l'anecdote le raconte, on va déjà rejouer la scène. La scène va être jouée, les ouvrières étaient sorties trop vite, en désorganisées, et il a fallu rejouer la scène. Donc on est là déjà toute l'histoire de la relation entre le cinéma et le travail, une histoire à la fois critique, mais aussi à la fois, j'allais dire, hagiographique. En tout cas, il y a aussi du cinéma critique et du cinéma patronal, il y a les deux.
Charlotte Garçon.
Oui, alors dans le cas de Charlie Chaplin et des temps modernes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cinéaste qui résiste à l'arrivée du parlant. Vous disiez que c'était son dernier film muet, en fait, il est sonore, mais la voix, c'est avant tout celle du patron. Ouais. Et c'est dans une préfiguration de ce que sera la télésurveillance par les patrons, c'est assez saisissant. Mais en fait, Charlie Chaplin qui refuse, j'allais dire, la mécanisation du cinéma, c'est-à-dire une forme de normalisation de ce médium qui pour lui essentiellement est un médium muet. Et donc il y a une sorte de... Le temps du cinéma, quand on fait un cinéma dialogué, impose de tourner et de projeter en 24 images par seconde. Tandis que lui, dans les temps modernes, il peut tout à fait accélérer une séquence parce que ça fait un effet de gag plus important. Donc en fait, lui-même, en tant que cinéaste, résiste à une cadence, on pourrait dire. Donc il y a vraiment un parallèle entre l'ouvrier qui résiste à la cadence de l'usine et lui, comme cinéaste, résistant...
Cinéaste militant, d'une certaine manière, avant l'heure. Jean-Paul Géhin, je m'adresse au sociologue que vous êtes, parce que vous êtes sociologue du travail. Vous avez, par ailleurs, pas toujours travaillé autour de l'objet cinématographique. Qu'est-ce que le cinéma vous a permis d'apporter en plus à votre analyse sociologique?
Oui, déjà, on est dans un monde d'images, mais plus globalement, le travail, c'est quoi? Le travail, c'est d'abord des gestes, une gestuelle. Bon, mais c'est pas que ça, c'est aussi des relations sociales, c'est des rapports sociaux de travail, on en parlait, et c'est effectivement l'analyse, comme marxiste ou pas, de ces rapports sociaux de travail. Mais c'est aussi, de manière fondamentale, le travail, c'est la représentation qu'on a du travail et de notre propre travail. Et là, le cinéma a un rôle tout à fait essentiel, l'image, au sens plus large du terme, a un rôle tout à fait essentiel. Alors, c'est le cinéma, c'est Internet, c'est la photographie aujourd'hui, mais ça a été bien d'autres médias. Tout au long de l'histoire des civilisations, on a le travail et ses représentations, et ses images du travail.
Mais depuis quand est-ce que les sociologues du travail s'intéressent à la place des images et du cinéma en particulier? Depuis quand est-ce qu'ils en ont fait un objet de recherche finalement?
Alors c'est une longue histoire en fait. Dès le développement de la sociologie du travail dans les années 50 en France, on a déjà ce souci d'essayer de capter, de réfléchir d'une part sur les images et d'analyser ces images du travail, et d'autre part de mobiliser l'image fixe ou animée dans l'enquête. Hein, dans le travail d'enquête, dans le travail de terrain et d'enquête. Voilà. Alors donc ça c'est un souci. On va voir donc historiquement depuis les années 50 des tentatives. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, de manière quand même majoritaire, la sociologie est d'abord attachée à l'écrit et peu à l'image.
Vous dites que les premiers à avoir véritablement une réflexion autour de l'utilisation de l'image cinématographique dans la démarche sociologique, c'est Georges Friedman, évidemment, immense figure de la sociologie française, et puis Pierre Naville.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et là, on a vraiment une réflexion. Il y a une réflexion théorique, il n'y a pas beaucoup de mise en œuvre. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de mise en œuvre. Mais c'est vrai que cette question du rôle de l'image dans la société du travail, elle est posée dès les années 50 par Naville et Friedman.
C'est les premiers vraiment à mener cette réflexion autour de ce qu'on appelle à l'époque l'instrumentalisation audiovisuelle. Mais vous distinguez plusieurs phases, plusieurs périodes justement dans cette place du cinéma dans la sociologie du travail. Vous dites qu'il y a les années 60, les années 80-90 et puis les années 2000. Par quels critères justement est-ce que vous établissez ces différences et quelles sont les ruptures et les continuités évidemment entre ces différentes périodes?
C'est un travail qui a été fait à partir de l'examen des productions audiovisuelles et des analyses des images du travail qui ont été faites sur ces différentes périodes. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'on a une première période qui est une période très théorique. L'importance de mettre de l'audiovisuel dans la recherche en sociologie du travail, mais qui reste assez théorique. La deuxième période est une période beaucoup plus pratique, où des expérimentations se mènent, mais c'est une expérimentation qui reste marginale. Et la troisième période qui se dessine dans les années 2000, et actuellement, c'est une reprise, une réflexion, et notamment une articulation entre cette approche sociologique et des approches plus cinématographiques, et notamment une réflexion commune entre le travail documentaire d'un côté et le travail sociologique de l'autre, et le développement en cours de documentaires en sciences sociales, de documentaires sociologiques sur le travail.
On reviendra évidemment sur cette place du documentaire. Les temps modernes ont fait un saut dans le temps de 8 décennies. On se retrouve en 2016 avec l'un des réalisateurs qui a fait bien sûr du travail son thème principal, c'est Ken Loach.
Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres?
Yes.
Can you raise either arm as if to put something in your top pocket?
Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified?
I've had a major heart attack.
I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet.
I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen.
There must be some mistake.
If you've been deemed fit for work, your only option is job seeker's allowance.
Well, I want to appeal.
You have to apply online, sir.
I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me.
Moi, Daniel Bleck, Palme d'Or à Cannes en 2016. Daniel Bleck, un ancien menuisier d'une soixantaine d'années qui souffre de problèmes cardiaques. Et puis Katie Morgan, une mère célibataire, mère de deux enfants, deux personnages malmenés par la vie et aussi par les services sociaux et qui tentent de s'aider mutuellement. On est dans un contexte social extrêmement difficile à ce moment-là. La crise économique a secoué le monde. La Grande-Bretagne, évidemment, n'est pas épargnée. Les autorités ont décidé de retirer certaines prestations sociales accordées à des personnes présentant des problèmes de santé ou un handicap. C'est le cas évidemment pour Daniel Bleck, veuve, qui va se retrouver forcée à chercher un emploi et se retrouver donc confrontée à cette administration pour le moins tatillonne et un peu humiliante. Charlotte Garçon, c'est vrai qu'avec Ken Loach, on est vraiment dans l'archétype du cinéma militant, avec cette dénonciation la plus virulente du capitalisme et de ses effets les plus négatifs.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à contrebalancer le tableau. Tout doit être dans une forme d'excès et finalement rester dans un régime d'image qui soit tout de même un régime de récit qui soit quand même naturaliste pour qu'on puisse s'identifier avec le personnage. Mais ici, on n'a plus une représentation du monde ouvrier. On a plutôt le chômeur comme un corps inutilisable, c'est-à-dire le système comme rejetant des déchets, produisant du déchet de manière complètement absurde en inventant des nouvelles lois qui font que vous n'êtes plus rien, vous n'êtes même pas un travailleur.
Ouais, cette production de déchets, justement, Jean-Paul Géhin, est-ce que vous diriez que, avec la crise économique de 2007-2008, on a vu un retour en force du thème du travail dans le cinéma et quelles sont peut-être aussi les grandes évolutions dans la manière dont il est traité, Jean-Paul Géhin ?
Oui. On voit d'abord, moi je trouve, dans les années 80, une éclipse du travail dans le cinéma, alors qu'il a été très présent pendant les 80 premières années de sa vie, le travail dans le cinéma, on le voit un peu disparaître. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi il disparaît dans les années 80.
Eh bien pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, bon, plusieurs raisons sans doute. On peut dire que c'est un effet d'après 68. 68 a beaucoup critiqué le travail notamment à la chaîne. Et donc voilà, une espèce de, on voulait sortir l'an 01, on voulait quitter le travail. Ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'on a les premiers effets de la crise, la crise des années 70. On a déjà le premier effet et donc on passe un peu, comme on en parlait tout à l'heure, du travail à l'emploi. Et puis une troisième raison, que moi je pense la plus intéressante en fait, c'est cette idée que dans les années 80, on était persuadé que le travail allait disparaître. En tout cas, ça n'allait plus être le lieu central, le temps central de la vie, de nos vies, que l'espace central de nos vies, ça allait être les loisirs, les temps libres. En 81, on crée un ministère des temps libres. Du temps libéré. Voilà, on est sur cette idée-là. Alors c'est une idée que, d'ailleurs qui était relayée tant par le cinéma que par les sociologues, par les sciences sociales et que par les politiques. C'était une idée qui était très très présente. Voilà, aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était pas le cas, quoi.
Oui.
Donc moi je pense... Oui, voilà, excusez-moi.
Je vous en prie. C'est vrai, Charlotte Garçon, ce que dit Jean-Paul Géhin, c'est qu'évidemment, on est dans ces années 80, et puis peut-être aussi début des années 90, dans un moment où le temps de travail diminue, où la place des loisirs est de plus importante, où d'une certaine manière, le temps de travail n'est plus ce temps socialement dominant. Sauf que, bien sûr, la montée du chômage va remettre le travail au centre de préoccupation. Et donc, évidemment, le cinéma traduit aussi cette dynamique.
Oui, l'un des exemples, ce serait le début du film Rosetta, des frères Dardenne, qui a obtenu la Palme d'Or.
87.
Voilà, où on voit, dans mon souvenir, c'est un plan sans coupe, c'est-à-dire qu'on la suit, on suit cette jeune fille qui refuse absolument d'être renvoyée de son travail et qui physiquement s'accroche, y compris s'accroche avec ses mains et à son patron, parce que le travail, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut lui enlever. C'est comme une sorte de droit inaliénable chez les frères Dardenne, qui peuvent faire penser un petit peu au film de Ken Loach, mais en réalité, il y a une sorte de lien qui va se tisser juste au cours des années 2000, entre le travail et le meurtre. Il y a vraiment un danger. Là, on tue, on est prêt, symboliquement ou réellement, à tuer pour le travail.
C'est aussi un petit peu ce qu'on voit dans le film de Laurent Cantet, Emploi du temps, où effectivement, il est question là aussi de meurtre. Jean-Paul Géhin, quels sont, selon vous, c'est les films peut-être les plus marquants, les plus significatifs dans ce retour du thème du travail ?
On peut parler naturellement de ressources humaines, de Laurent Cantet, qui est vraiment... c'est 2000, c'est vraiment le virage de 2000, et on a l'émergence d'une figure du travail, alors qu'il reste la figure ouvrière, mais aussi, en même temps, la rupture. Je crois que c'est un moment important.
Oui, on peut penser aussi à Dancer in the Dark de Lars von Trier, on peut penser à La question humaine de Nicolas Claude. Est-ce que Jean-Paul Géhin, tous les genres cinématographiques sont concernés par cette attraction vers le travail ?
Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé lorsqu'on étudiait un peu l'histoire de la relation cinéma-travail. C'est que, alors naturellement on parle de la fiction, mais il y a aussi des documentaires. Il y a aussi, à partir des années 20, tous les films d'actualité, ce qu'on appelait les films d'actualité, c'est-à-dire les courts-métrages, qui ont été très très largement centrés sur le travail. Parce que ça permettait de représenter la société industrielle en train de naître, et en même temps, ça représentait aussi la société était la civilisation paysanne en train de disparaître. Et donc, et c'était, ça avait aussi l'avantage d'être financé, soit par les ministères, soit par les entreprises, soit par les associations. Mmh. Donc, on a une multitude de films de ce type-là, qui est intéressant ben, d'un point de vue historique, de voir un peu, c'est un peu, mais aussi qui est intéressant parce que ça a permis à pas mal de grands réalisateurs de faire leurs premières armes. Voilà. Et on trouve ça en France, mais aussi en Italie, mais aussi en Espagne. Voilà, c'est des
faits. L'ascension d'un courtier en bourse, Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio, une ascension fulgurante qu'il conduit vers la gloire, vers la fortune, et au cœur de cet enrichissement, bien sûr, tout un système de malversation. Vous avez reconnu, c'est le loup de Wall Street.
My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is?
No, fugazi. It's a fake.
Hey, fugazi, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust.
Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with.
How does this actually work?
There's a big money sign.
They get launched at the tide, they stick.
Yeah. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart.
Stop. Okay?
Safety first.
Safety is first. We don't want to get a bad reputation.
Voilà, extrait du Loup de Wall Street de Martin Scorsese 2013. Là, cher votre garçon, c'est vrai qu'on est très loin des temps modernes. C'est un travail bien éloigné de celui qui était décrit par Chaplin. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans l'hubris, enfin dans un excès, y compris de vulgarité, puisque à l'intérieur des bureaux des traders sont organisées des sortes de parties fines, enfin pas très fines, qui tournent vraiment à des scènes de débauche. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous parliez de précariat. Finalement, est-ce que la condition du trader, c'est pas aussi paradoxalement une forme de précariat ? Et Martin Scorsese est très friand, de par aussi sa culture catholique, des récits d'ascension et de chute. Et il y a une scène très très mémorable pour ceux qui ont vu Le Loup de Wall Street, c'est qu'on voit le héros ramper littéralement à terre, complètement affaibli
absolument,
par
ouais.
la drogue qu'il a prise.
Oui, et c'est d'ailleurs frappant ce que vous dites, parce que vous parlez de précariat. En réalité, on imagine que dans ce film, bien sûr, ce trader, il a l'image extrêmement contemporaine. D'une certaine manière, ils sont aussi au cœur de ce système financier fou qui a conduit à la crise économique. Et en réalité, ce métier-là de trader, il est en train de disparaître progressivement, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs aujourd'hui dans les banques qui développent des modèles mathématiques qu'on introduit ensuite dans des ordinateurs pour les remplacer. En réalité, ce métier-là, ce travail-là est aussi en train de mourir. Jean-Paul Géhin, sur Le Loup de Wall Street.
Oui, ben c'est alors il y a Le Loup de Wall Street, mais il y a énormément de films là depuis quelques années. Je pense à Margin Call et à d'autres qui sont sur le trader, le financier, etc. Et on se demande si c'est pas une espèce de nouvelle figure émergente du travail là qui nous apparaîtrait la figure des années 2000 du travail, une espèce de playboy richissime dont la devise serait la suivante soit le premier, le meilleur ou triche. Et donc, on a cette espèce de vision cauchemardesque de l'avenir du travail qui est dessinée par ces films-là. Alors, bon, espérons que ce n'est pas le cas, mais voilà, on a cette rupture quand même par rapport à l'image encore présente des temps modernes.
Mmh. Et puis, il y a aussi une chose qui est étonnante, c'est que ce film, il est à nouveau au cœur de l'actualité, puisque Leonardo DiCaprio a été entendu par le FBI autour d'un possible détournement de fonds qui aurait servi au financement du film. Le département fédéral des États-Unis poursuit la production du film pour essayer de récupérer une grosse somme d'argent qui a été détournée d'un fonds souverain, et c'est absolument saisissant de voir que le système de malversation qui est décrit dans le film, il déborde bien sûr les frontières de la pellicule pour atteindre le système de financement du film même. Là, on voit que la frontière entre la fiction et la réalité est extrêmement poreuse. Alors justement, peut-être évoquons cette question-là et cet apport peut-être du documentaire dans cette manière de penser le travail. Dans le cinéma, on retrouve à la fois bien sûr des fictions et des documentaires qui traite de ce sujet du travail. En quoi est-ce que ces deux formes, je vais commencer avec vous, Charlotte Garçon, vous paraissent-elles complémentaires ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut montrer dans la fiction, qu'il est difficile de montrer dans un documentaire et inversement ?
Alors, la fiction, puisqu'on parlait du Loup de Wall Street, c'est quand même d'aller dans l'excès, ou même le burlesque de Chaplin. Ce sont effectivement des représentations qui ne sont pas naturalistes, qui ne sont pas réalistes au sens bord à bord avec le réel, mais qui justement permettent de métaphoriser ou de rendre rendre extrême pour mieux faire voir. Donc c'est quand même très important d'avoir ce réservoir imaginaire où qu'on peut pousser très très loin par les moyens propres de la mise en scène de cinéma. Et d'un autre côté, je trouve que le documentaire, alors d'abord, peut nous faire rentrer dans des lieux dans lesquels nous ne rentrons pas, parce que si vous ne travaillez pas en usine, il n'y a aucune raison qu'on vous laisse entrer, notamment dans une grande usine. Donc ça, je trouve ça vraiment très très précieux. Et puis d'entendre aussi la parole de travailleurs qui peuvent être des travailleurs manuels qui, eux, ne sont pas entendus par ailleurs. Donc il y a au moins ces deux fonctions.
Qu'est-ce que vous semble apporter le documentaire Jean-Paul Géant par rapport à la fiction et inversement ?
Oui. Déjà, j'ai envie de dire quand même qu'il y a une certaine perméabilité entre documentaire et fiction, qu'on sait que, bon, dans les documentaires, les acteurs jouent plus ou moins leur rôle, rejouent quand même plus ou moins leur rôle, et que, bon, là, et que la fiction a aussi pris beaucoup de techniques de documentaire. On parlait de Rosetta tout à l'heure, et il y a des techniques documentaires qui ont été utilisées dans ce cadre-là. Par contre, bon, moi je crois qu'effectivement la fiction, elle nous permet d'aller où on ne peut pas aller a priori et de se rapprocher du travail tel qu'il est, travail concret, j'allais dire réel, mais je préfère dire concret, travail concret. Je suis en train de penser à un film qui vient de sortir, un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Seigneur avec un A. Qui est sur les abattoirs. Alors oui, on ne va jamais dans les abattoirs, déjà on voit ça. Et en plus, on a là tout un travail long fait par les réalisateurs de présence. Et donc du coup, on est proche du travail, on est proche. On voit bien ce que le travail fait au corps. On voit bien la pénibilité du travail et comment ce travail sur la matière, c'est-à-dire vivante, elle n'est pas vraiment vivante, mais sur des bêtes, transforme les corps. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve qu'on a l'intérêt du documentaire qui va au-delà de la mise en scène fictionnelle.
On reviendra justement sur cette idée de comment le travail, finalement, transforme les corps et les esprits. Et je rappelle, effectivement, vous parliez de frontières poreuses, parfois, entre la fiction et le documentaire. C'est d'ailleurs, justement, sur cette frontière extrêmement poreuse que joue régulièrement Ken Loach, Charlotte Garçon, quand il fait appel à des comédiens amateurs. C'est aussi ça qu'il joue.
Oui, et en même temps, on peut se demander si cet appui qu'il trouve dans la réalité, il n'est pas un tout petit peu fourbe dans ses entretiens par rapport à ça, parce que je pense que ce qui l'intéresse, c'est quand même un très fort potentiel dramaturgique, ce que les frères Dardenne, là, ouvertement, mettent en œuvre.
Émission consacrée donc au travail toute cette semaine. Aujourd'hui, le précariat dans l'œil de la caméra. On est avec Jean-Paul Géant et Charlotte Garçon.
France Culture, Culture Monde. Florian Delorme.
Jean-Paul Géant, qui est aussi cofondateur du festival Filmer le Travail, et justement, dans son édition 2017, le festival Filmer le Travail avait décerné son grand prix à un documentaire israélien consacré à l'aide aux réfugiés, à une ONG dédiée à la défense des droits des migrants qui assure l'accueil, l'information juridique et l'accompagnement auprès de ces populations fragilisées. Extrait donc, ça s'appelle Hotlines.
Vous étiez à Holon?
J'y suis allé après qu'ils m'ont donné le papier, celui-ci. Et après, je suis allé à Holon, ils m'ont donné celui-là.
Ok. Le processus qu'ils veulent que vous suiviez, la procédure, et qu'ils vont émettre un ordre d'expulsion. Ok.
Je savais que c'était ce qui allait arriver, mais je m'attendais à ce qu'ils soient au moins sincères. Qu'ils me disent « nous n'avons pas besoin de vous dans le pays, nous vous donnons un délai de quelques jours pour arranger vos affaires. Dans ce cas, je fais mes bagages et je trouve le moyen de partir. Mais si vous me convoquez un entretien dans 3 mois, je reste ici, paie mon loyer et dépense le peu d'argent que j'ai. Que voulez-vous que je fasse ?»
Mais que voulez-vous faire ? C'est entre nous, il n'y a personne du ministère de l'Intérieur.
Je voudrais rentrer, peu importe les dangers. Je crois que je serais mieux chez moi qu'ici.
Qui peut l'aider à rentrer chez lui ?
La Croix-Rouge, je lui ai dit.
Avant de contacter la Croix-Rouge, nous pouvons parler à Michael. Michael Gedge, de l'unité de départ volontaire. Retourner au Ghana ne pose aucun problème.
Pas de problème ?
Non, il a un passeport.
Voilà, extrait de ce film documentaire Hotlines. Hotlines qui est donc cette association animée par Sigal Rosen qui dépense une énergie considérable pour apporter cette aide aux réfugiés, essentiellement des Africains venus du Soudan, du Tchad, d'Érythrée, qui sont arrivés en Israël et dont les droits sont extrêmement limités. Et par ailleurs, évidemment, elle se heurte également à l'opposition d'une partie de ses concitoyens qui refusent qu'Israël les accueille, considérant qu'ils sont source de troubles et que le pays n'a pas les moyens de les accueillir. On va retrouver justement sa réalisatrice qui est avec nous depuis Tel Aviv, c'est Sylvina Landsman, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes donc la réalisatrice de ce documentaire, Hotline, qui a eu donc ce prix au festival Film et le Travail. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire? Est-ce que vous vouliez montrer précisément le sort des réfugiés africains en Israël? Est-ce que c'était d'abord d'exposer peut-être un travail, disons, assez peu traditionnel, hein, celui qui est effectué par cette ONG? Qui est bien sûr assez différent de ce qu'on retrouverait dans une entreprise, disons, traditionnelle, où là, il est question de faire essentiellement des profits économiques. Finalement, qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce documentaire? La question du travail ou celle des réfugiés? Ou les deux, Sylvina Landsman?
Alors, c'est vrai, les deux. Et d'une part, je m'intéressais à observer de près le fonctionnement d'une ONG, et c'est des organisations qui apparaissent de plus en plus... je ne sais pas, 20 dernières années, peut-être plus, et de plus en plus des organisations de la société civile dont le but est plutôt lucratif, ce n'est ni le public ni le privé, mais quelque chose de gens qui s'organisent pour prendre à chaque organisation à sa propre tâche. Alors d'une part, je voulais observer ça. D'autre, c'est vrai que la présence en Israël, à partir des années 90, disons, de plus en plus de travailleurs étrangers, c'était quelque chose que j'observais aussi. Et donc, quand j'arrive par hasard à cette organisation, qui me permet de regarder les phénomènes à la fois, mais d'une perspective qui est celle de cette ONG. Et qui s'occupe surtout des questions qui sont liées au statut de réfugié ou au statut de travailleurs ou des gens sans papier ou des demandeurs d'asile ou voilà, il y a beaucoup de dénominations ou des infiltrés comme ils sont appelés par le gouvernement en Israël et aussi des questions liées à l'emprisonnement et de ces personnes.
Par ailleurs, je précise que ce n'est pas le premier documentaire que vous réalisez autour de cette question du travail. Vous aviez fait déjà un film sur le travail d'enseignant dans une école, également dans un hôpital, et à chaque fois, évidemment, il est question de travail. Dans votre film, vous vous situez vraiment en observatrice. Il n'y a pas du tout de moment d'interview, pas d'échange avec les différents membres de cette ONG. Pour quelle raison?
C'est juste une question de préférence. C'est comme ça que j'aime m'installer avec ma caméra dans une situation, l'observer, vivre avec les gens pendant une période de temps, dans une durée du temps. Et par exemple, Hotline, j'étais presque tous les jours dans cette association pendant 3-4 mois. Donc, je peux apprendre par ma présence de quoi consiste ce travail, pas poser des questions, juste regarder. Et après, c'est un retour dans la salle de montage avec une grande quantité d'heures de filmer. Et là, commencer à faire un peu une analyse de ce que j'ai vu et voilà.
La question aussi qui se pose dans ce documentaire, qui est extrêmement frappante, c'est celle de l'objectif, du but finalement du travail. On se demande tous finalement à quoi sert notre propre travail. Et ces travailleuses, ces travailleurs, on le voit, ils ont très peu de moments de satisfaction. Ils sont perpétuellement confrontés au malheur, au rejet de ces personnes-là qui sont censées protéger, accompagner. Est-ce qu'ils parviennent quand même à garder espoir? Est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment que finalement leur travail est vain? Est-ce qu'ils sont également atteints, comme beaucoup de travailleurs, par ce syndrome d'une forme d'incompréhension du sens réel de leur travail?
Je crois que vous touchez à un sujet très profond. C'est-à-dire, la plupart des gens qui font du travail comme ça se retrouvent un peu dans l'ombre. C'est-à-dire, c'est pas un travail qui est ni rémunéré économiquement d'une façon très comme ça, importante, ni qui n'a pas, n'est pas illuminé, disons, par les informations ou par. C'est un peu dans l'ombre. Donc, ça peut être peut-être, et c'est vrai que le travail en soi, la réalité est tellement complexe, il y a tellement de difficultés, on touche à des situations vraiment compliquées, on veut aider les gens et on n'arrive pas vraiment à les aider, mais je crois que ce que j'ai vu, c'est que le travail en soi, il est déjà une espèce de rémunération, c'est-à-dire de ne rien faire, c'est encore pire.
Mmh. Et cette finalité du travail, elle est évidemment au cœur de ce documentaire, parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 demandeurs d'asile en Israël, mais que les chances d'obtenir le statut de réfugié sont absolument infimes. En un demi-siècle, j'ai appris ça en préparant notre échange, ce sont à peine 200 personnes qui ont pu accéder à ce statut officiel d'asile, c'est-à-dire le visa qu'on appelle A5, donc cette ONG, évidemment, elle joue une partie, mais qui est quasiment perdue d'avance. Jean-Paul Géhin, je voudrais vous entendre sur ce documentaire en particulier, qui a donc reçu ce prix du festival Filmer le Travail, que vous avez cofondé. Pour quelle raison vous l'avez primé, Jean-Paul Géhin ?
Alors, on reçoit beaucoup de films, hein. On reçoit 300 films documentaires chaque année, et donc on en sélectionne 22, 20, 25, et on en prime quelques-uns, 4 ou 5. Alors, pourquoi il était primé ? Ben, je veux dire, il reflète bien, en tout cas, le mouvement qu'on voit, qu'on saisit. Premièrement, on voit de plus en plus de films hors France, hein, hors non francophone. Ça, il y a de plus en plus de films qu'on reçoit qui sont comme ça. Et cette année, la majorité de la sélection était non francophone. Et puis, on voit aussi de plus en plus de films qui sortent, en fait, des images classiques des travailleurs. C'est-à-dire, bon, le travailleur manuel, etc. On voit de plus en plus, notamment, des activités de service aux personnes. Et alors, bien sûr, c'est une activité très particulière, celle des ONG, celle des activistes, en quelque sorte. Mais c'est aussi une activité, en fait, très, très large, puisque c'est l'activité ça s'inscrit en tout cas dans l'activité de service aux personnes qui dans un pays comme la France représente plus de 60%, dans les pays développés environ 2/3 des activités salariées. Donc ça reflète, c'est à la fois une activité très spécifique et à la fois ça reflète ces types d'activités où effectivement la question du sens se pose. Mmh. Quel sens à mon travail ? Comment je peux l'évaluer ? Comment aussi, si ça va pas, je peux me dire c'est la faute de qui ? Est-ce que c'est la faute du patron ? Est-ce que c'est ma faute à moi-même ? Etc. Vous voyez, on a là sans doute un indicateur de l'évolution actuelle du travail.
Mmh. Ce festival Filmer le Travail, il a été fondé en 2009 par l'Université de Poitiers. Quels étaient à l'époque les objectifs affichés lors de sa création et quel bilan est-ce que vous en faites aujourd'hui ? Est-ce qu'il a rempli précisément ses objectifs, Jean-Paul Géhin ?
Alors, l'objectif affiché, très clairement, c'était celui de mettre en débat, mettre en discussion le travail. Réfléchir. On voyait que le travail évoluait très vite. On savait pas trop dans quel sens il allait. Et on se disait qu'il y avait besoin d'un débat citoyen sur cette question-là. Alors, pour alimenter ce débat citoyen, il y a bien sûr des travaux de recherche en sciences sociales, mais il nous a semblé aussi qu'il y avait à demander un regard plus artistique, un point de vue plus artistique, plus subjectif, et notamment qu'on pouvait obtenir dans le cinéma, de fiction ou documentaire, et d'ailleurs dans d'autres pratiques artistiques. Voilà, alors c'est 8 ans après, puisqu'on vient juste de terminer la 8e édition, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que sans doute que notre intuition d'il y a bientôt 10 ans, eh ben, se confirmait, que le travail était toujours en débat, évoluait toujours très vite et était une question sociale fondamentale, centrale, et que le cinéma, de plus en plus, effectivement, et le cinéma et d'autres pratiques artistiques, mais le cinéma en particulier, était représenté très fortement le travail, que le travail était toujours au cœur du cinéma. J'ai envie de dire que le travail envahit nos vies, et le cinéma vraiment en rend compte. Mmh. Et non seulement pour le montrer, mais aussi pour comprendre l'articulation entre vie quotidienne, vie domestique et vie de travail.
Je vais me retourner dans quelques instants vers Sylvina Landsman, parce que j'ai encore peut-être 1 ou 2 questions à vous poser, si vous le voulez bien rester avec nous. Charlotte Garçon, d'abord, réaction. Oui. Alors, je précise que vous n'avez pas vu ce documentaire, mais de façon générale.
Oui, en fait, on s'aperçoit que, j'allais dire, le travail, c'est presque le sujet principal du documentaire en général. Que ce soit les grands films de Frédéric Wiseman qui tournent dans des institutions, mais en fait, que ce soit dans un hôpital public à New York ou que ce soit à l'Opéra de Paris, c'est toujours des gens au travail qu'ils filment. Mmh. Donc, c'est un peu peu vertigineux, mais c'est vrai que c'est un sujet tout à fait privilégié pour le documentaire.
Je voudrais qu'on s'interroge peut-être sur l'effet justement de ce genre d'objet, et en l'occurrence de ce documentaire en particulier, Sylvina Landsman. Évidemment, votre film, il n'est pas très tendre sur l'État d'Israël, qui ne fait pas respecter le droit des réfugiés. À plusieurs reprises, on remet en cause le caractère même démocratique de l'État hébreu, précisément sur cette question de son refus de faire respecter leur droit à ces réfugiés. Et par ailleurs, on y voit des Israéliens, ça c'est au début du documentaire, c'est une séquence vraiment extrêmement frappante, des Israéliens très remontés contre la présence de ces réfugiés dans leur quartier, notamment dans ce début donc du film où on voit Sigal Rosen qui dirige cette ONG qui fait l'objet d'une très grande violence verbale de la part de personnes qui veulent qu'ils s'en aillent de leur quartier à tout prix, et tant pis si Israël a signé la convention relative au statut des réfugiés. La question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que les Israéliens ont eu l'occasion de voir votre film et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce que ça a produit chez eux, Sylvina Landsman?
Oui, alors, il y a une sortie salle en Israël après que le film a été présenté dans le Festival international de cinéma à Jérusalem, où il a aussi obtenu le prix du meilleur documentaire. Donc, il a été vu et il a surveillé de l'intérêt. Et je pense vis-à-vis, je voulais ajouter vis-à-vis la question de l'échec et de l'impuissance. Justement, en face d'une réalité politique compliquée qui n'accueille pas avec joie les demandeurs d'asile et n'essaie pas de trouver des solutions que de les chasser ou de les enfermer ou de trouver le moyen de s'en débarrasser. Ce n'est pas le seul pays au monde où ça se passe, ce phénomène, malheureusement. Mais il faut dire aussi que cette ONG, comme d'autres, malgré cette réalité complexe et difficile, il y a aussi des petites réussites. Et il y a toujours l'espoir de continuer à se battre et avoir une influence des lobbies, des advocacy, de changer la loi. Et, par exemple, en Hotline, avant de s'occuper de la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, avant, le sujet sur lequel elle avait travaillé, c'était la traite des blanches, où il y avait une situation en Israël très, très grave vis-à-vis les femmes qui arrivaient pour la prostitution. Et cette ONG a réussi vraiment à changer la situation dans ce domaine. Et c'est alors qu'elle se verse vers un autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a aussi les possibilités de changement. Et je cite Margaret Mead qui dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens intentionnés, dévoués, peut changer le monde. En fait, c'est la seule chose qu'il soit jamais parvenu. Et vraiment, je crois que les gens qui font ce travail le croient, ça. Et que c'est la force qui est derrière. C'est, voilà, doucement.
Merci beaucoup, Sylvina Landsman, d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis Tel Aviv. Je rappelle que vous avez réalisé ce film Hotline, que je conseille vraiment aux auditeurs, mais alors je ne sais pas vers où les conduire, parce que est-ce qu'on peut voir ce film en France? Comment?
Faudrait appeler les chaînes de télévision qui l'achètent.
Voilà, c'est ça. Bon, merci infiniment. En tout cas, j'espère que les chaînes auront entendu le message. Un grand merci à vous. On parlait de documentaire. On va se tourner vers la France et s'intéresser à un autre documentaire. C'est quoi ce travail ?
L'arracher.
J'ai craqué. Je crois que j'allais mourir dans l'usine.
1, 2.
L'homme, il s'adapte à n'importe quoi quand il est condamné. C'est étonnant, hein? 6.
Je dirais que c'est un ciment, le travail. C'est un ciment de l'être humain.
1, 2. Moi, je préfère quand il y a une palle.
4.
Voilà, quoi.
5. 1.
Des fois, ben, je suis ailleurs.
3.
Ben ouais, c'est mes mains qui travaillent toutes seules, en fait.
Non, non, vous ne créez pas ici. Vous améliorez peut-être, mais vous ne créez pas, non.
Ça tapote, c'est bon, il y a le rythme. Et je me casse, je m'enfuis de l'usine.
J'ai pas l'impression de participer, en fait. Je vois pas mes traces.
Voilà un documentaire de Luc Joulet et Sébastien Jousse, sorti en 2015, C'est quoi ce travail, réalisé dans une usine de Saint-Ouen où on fabrique des pièces qui serviront à construire des voitures Peugeot ou Citroën. Les ouvriers y racontent, ils décrivent leur travail et en toile de fond, on a cette musique, donc cette partition musicale écrite par le compositeur Nicolas Frise, qu'on aperçoit parfois d'ailleurs dans le film en train de capter des sons, qui prépare une pièce musicale sur l'usine en collaboration avec certains de ses salariés. C'est une mise en regard assez étonnante entre, d'un côté, l'activité des ouvriers et celui du compositeur, Charlotte Garçon. Ce qui est intéressant ici, je sais que c'est ça que vous voulez peut-être pointer en particulier, c'est que d'une certaine manière, le cinéma se filme lui-même.
Oui, alors en fait, c'est la résidence de ce compositeur, le fait qu'il avait résidence à l'intérieur de cette usine qui a permis au réalisateur de rentrer. Donc vous voyez, il faut une stratégie, sinon les usines ne vous laissent pas filmer à l'intérieur. Il y a quand même quelque chose encore de l'ordre de la forteresse. Donc c'est à la fois un prétexte et à la fois, bien sûr, ça devient beaucoup plus qu'un prétexte puisqu'on a deux types de gens au travail, deux types de travaux qui seraient un travail artistique puisque ce compositeur collecte des sons qui sont des sons des machines, produit par les machines et la fabrication des pièces, mais qu'il destine quand même cet opéra qui est de musique, je pense, concrète. Il y a quand même des chants, il destine tout cela à l'interprétation des travailleurs, de certains des travailleurs qui vont ensuite faire une représentation à l'intérieur de l'usine. Et il y a une image très frappante qui est un petit peu en écho aux sorties des usines Lumière, qui est les familles des travailleurs qui viennent à la fin du film, rentrent dans l'usine et viennent voir ce spectacle, alors qu'elles ne sont évidemment jamais rentrées dans cette usine. Mais ce qui me semble intéressant dans ce documentaire, c'est quoi ce travail ? C'est son choix de montage qui est, on voit des portraits en fait, des ouvriers qui font les gestes qu'ils accomplissent tous les jours. On voit vraiment la chaîne des différentes opérations qu'ils ont à pratiquer pour fabriquer leurs pièces et est monté en voix off des entretiens avec cet ouvrier, mais réalisé à part. En tête à tête et de manière très calme et j'allais dire extrêmement réflexive. On a vraiment des gens qui sont dans le travail manuel mais qui sont vraiment dans une réflexion très poussée et très profonde sur la façon de lui donner du sens.
Vous parliez de réflexivité, c'est vrai. Il y a une chose, Jean-Paul Géhin, qui est frappante dans ce documentaire, c'est aussi l'isolement ressenti par ces ouvriers qui vivent pourtant, bien sûr, dans un brouhaha absolument incessant, Jean-Paul Géhin.
Oui, bon, il y a eu un spectacle, hein, le film rend compte d'un spectacle qu'avait organisé Nicolas Frise à l'intérieur de l'usine. Et ce qui était tout à fait frappant, c'était de voir effectivement toutes les familles qui profitaient de ce spectacle pour aller voir ensuite les ouvriers travailler, alors avec leurs robots en général. Hein, maintenant, effectivement, ce sont des ouvriers qui sont relativement isolés. Mais il y avait cette présence massive des familles et qui sont restées très longtemps. Pendant au moins une heure, les gens étaient là à regarder non pas le spectacle, après le spectacle, mais regarder les ouvriers travailler.
Allez, dernier.
On avait deux spectacles.
Dernier extrait de film, Histoire de Nadja, une gouvernante d'origine géorgienne qui travaille illégalement depuis plusieurs années pour une famille grecque aisée. Elle est tellement à sa tâche qu'elle fait quasiment partie de la famille. Le temps de repos étant extrêmement limité, elle ne sort pas beaucoup. Sauf que lorsqu'elle tombe malade et qu'on réalise qu'elle n'a pas de sécurité sociale et d'assurance maladie, la famille va progressivement la laisser tomber.
Ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και πόσο έχουμε δεθεί μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια. Ε. Αλλά υπάρχει πρόβλημα.
Vous saviez combien on est attaché à vous et combien vous faites partie de la famille, dit le père de famille. Mais là, on a un problème, dit-il. Ce qui est très frappant dans ce film aussi, Jean-Paul Géhin, et je reviens peut-être à une idée que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est que derrière les supposés beaux sentiments qui lient cette travailleuse et leur patron, on trouve la réalité du travail illégal qui engendre une immense précarité, évidemment, et un terrible isolement. Vous aviez dit à propos de ce film qu'il montrait parfaitement comment le travail oriente les comportements et les pensées. Jean-Paul Géhin.
Oui, c'est... C'est tout à fait frappant, effectivement, de voir que là, au-delà des sentiments, il y a des effets de qu'on peut appeler de classe sociale qui fonctionnent et qui fonctionnent très fortement, quoi. Et ce qui m'avait frappé aussi dans ce film-là, c'est ce que le travail faisait au corps. Il le fait au corps et il le fait à la vie de l'immigré, mais il le fait aussi au corps de l'employeur, puisque un employeur, à un moment donné, l'employeur, on découvre en fait qu'il a aussi lui-même des problèmes dans son travail et que ces problèmes se sont marqués dans son corps.
Oui, puisqu'il a des grandes plaques rouges sur le corps. Et j'ai oublié de préciser, hein, ce film, c'est At Home de Athanasios Karanikolas, qui était sorti en 2014. Charlotte Garçon, en guise de conclusion, ce que fait le travail au corps, évidemment.
Et oui, mais il faut aussi voir ce qui fait au corps du cinéaste. C'est pour ça que je prendrais des exemples de fiction beaucoup plus extrêmes, à l'extrême opposé de ces documentaires-là, puisque je trouve que les films les plus intéressants, c'est quand le cinéma se dévoile lui-même comme étant un travail. Après tout, faire des films, c'est aussi pour les acteurs incarner des personnages, etc. Ça se voit par exemple dans Holy Motors de Léos Carax, où on voit la vie de quelqu'un qui tous les jours se change, se transforme en un personnage différent, et on voit ce que ça lui fait. C'est-à-dire que ces émotions-là, bah, on les traverse, il faut les vivre, et c'est épuisant. Mais il n'y a que à ce prix-là que l'art peut exister.
Jean-Paul Géhin, en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission.
Oui, ben, vous me prenez à froid. non, parce que je voulais dire que pour continuer avec ces discussions-là, il y a aussi un film qui m'avait frappé parce qu'il montre aussi le travail du cinéaste. C'est le film Mia Madre de Nanni Moretti, où on voit effectivement en train de tourner un film sur une usine en grève, et on la voit aussi dans la vie quotidienne, et on la voit confrontée à toutes les difficultés d'un travail de cadre, de femme cadre. C'est tout le travail des cadres, la difficulté du travail des femmes qui est engagé dans ce film. We're up when the rooster crows. Clock in when the whistle blows. 8 hours ticking slow.
Merci beaucoup, Charlotte Garçon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes critique de cinéma, coordinatrice des pages cinéma de la revue Études, que vous participez bien sûr régulièrement à la dispute ici sur France Culture et que vous écrivez également dans la revue Images Documentaires. Un grand merci également à vous, Jean-Paul Géhin, qui est avec nous dans Duplex depuis Poitiers. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers et puis cofondateur de ce festival dont on a parlé, Filmer le Travail. We love. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors il a suffi, on parle de roman hein, depuis le début de cette semaine,
et
de ce que la littérature nous dit de notre monde et nous dit, voit notre politique contemporaine. Il a suffi que Kellyanne Conway, célèbre éditorialiste républicaine devenue conseillère en communication du président Trump, invoque la notion de fait alternatif pour que bondissent les ventes de 1984, le roman de George Orwell.
Oui, alors que 30 millions de ce formidable roman de politique fiction avaient déjà été vendus aux États-Unis depuis sa parution en 1949, il a fallu en réimprimer d'urgence 175 000. Et une semaine plus tard, ce livre se retrouvait en tête des ventes chez Amazon. Alors que cherche donc une Amérique passée sous présidence Trump dans cette contre-utopie, dans ce qu'on appelle une dystopie? On se souvient comment, dans 1984, satire de l'univers totalitaire, l'idée de vérité est déconstruite par le pouvoir du parti unique. Les esprits ont été reformatés par des années de propagande, au point que les nouvelles générations ont perdu tout moyen de nommer la réalité qu'ils écrasent. Seuls quelques vieux gardent le souvenir de l'ancien monde, celui dans lequel la réalité n'avait pas été métamorphosée par le mensonge de la propagande. Je cite 1984, « Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5 et il faudrait le croire. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie. L'hérésie des hérésies, c'était le sens commun. Et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles, c'était le commandement final et le plus essentiel. » Oui, l'une des caractéristiques des pouvoirs totalitaires, c'est qu'ils ne se contentent pas d'interdire les avis qui les dérangent, ça, la censure, tous les pouvoirs autoritaires la pratiquent, mais qu'ils exigent qu'on tienne certains discours. C'est qu'ils parviennent, par le conditionnement, à empêcher les peuples tombés en leur pouvoir de voir ce qu'ils voient et d'entendre ce qu'ils entendent. Les gens prennent l'habitude de remplacer l'expérience de leur sens par le mensonge du pouvoir, qui devient de ce fait une vérité alternative. Et cela rapproche en effet 1984 de Donald Trump, comme le reconnaît le philosophe John Gray dans un article paru ce mois-ci dans l'hebdomadaire de gauche britannique New Statesman. Pour autant, met-il en garde, on ne saurait comparer le président américain avec les dictateurs totalitaires du XXe siècle.
Alors, où sont justement les ressemblances et les différences selon votre philosophe anglais, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme américain, auteur notamment de ce best-seller « Les femmes viennent de Mars, les hommes viennent de Vénus ».
Oui, oui, rien à voir en effet. Mon John Gray est un très sérieux spécialiste britannique de philosophie politique, un spécialiste de l'histoire intellectuelle, auteur de nombreux ouvrages savants. Alors, dans cet article intitulé « Fiction du fascisme, ce que la dystopie du XXe siècle peut et ne peut pas nous apprendre sur Trump », John Gray commence par écarter les définitions paresseuses du fascisme, celles qui sont aujourd'hui, qui ont aujourd'hui la faveur des médias. Non, ce n'était pas un retour de l'irrationnel refoulé par la science et le positivisme. Arthur Koestler, qui selon John Gray y voyait plus clair parce qu'il avait enquêté sur place, a montré que les nazis vénéraient les sciences en tant qu'instrument de pouvoir. Dans « Croisade sans croix », écrit en pleine guerre et publié en 1943, Koestler met en scène un dignitaire nazi passionné de biologie. L'évolution étant bloquée en ce qui concerne notre espèce, médite-t-il, nous allons engendrer une nouvelle espèce d'Homo sapiens. À l'époque, l'idée d'améliorer l'espèce humaine par l'eugénisme était très répandue dans tous les milieux avancés européens. Dans la très libérale Angleterre, on croyait encore dans les années 20 et 30 en une science des races. Le grand historien Lewis Namier, britannique, donc, écrivait dans les années 50, je le cite, « Hitler et le Troisième Reich ont été l'accomplissement épouvantable et incongru d'une époque qui, comme aucune autre, a cru au progrès et se sentait certaine de le couronner ». Koestler avait compris aussi que les fascismes ne constituaient pas des versions plus ou moins radicales du nationalisme. Fascistes et nazis considéraient l'État-nation comme une relique du XIXe siècle, un résidu romantique. Leur objectif, c'était l'ordre impérial, un État pan-européen de type nouveau. Savons-nous qu'à la fin de la guerre, les Allemands étaient minoritaires dans la SS ? Cela dit, concède John Gray, il n'est pas étonnant que notre époque, perturbée par des changements dont nous avons du mal à percevoir le sens, se tourne pour les interpréter, pour tenter de les interpréter en tout cas, vers ce genre littéraire dont relève 1984 la dystopie. Car en effet, la novlangue de Big Brother anticipe la post-vérité des médias de l'alt-right, cette droite alternative qui a porté Donald Trump au pouvoir. Je rappelle que l'expression post-vérité a été lancée par l'essayiste américain Ralph Kayes dans un livre publié en 2004 sous-titré « Malhonnêteté et tromperie dans la vie contemporaine ». L'auteur en résumait ainsi le propos. Autrefois, nous avions la vérité et les mensonges. À présent, nous avons la vérité, des mensonges et puis des énoncés que nous considérons comme trop inoffensifs pour les appeler faux. Des vérités améliorées. Keyes écrivait aussi dans la post-vérité, les frontières entre la vérité et le mensonge, entre l'honnêteté et la malhonnêteté, la fiction et la non-fiction se brouillent. Et bien c'est dans cette zone que se déroulent de plus en plus de nos jours les batailles politiques. Et je signale en passant que l'extraordinaire essai de Harry Frankfurt de l'art de dire des conneries dont j'avais signalé l'existence et l'épuisement en librairie aujourd'hui vient d'être réédité aux éditions Mazarine.
Merci beaucoup Brice Couturier, on vous retrouvera bien sûr demain pour la suite de ce Monde des idées. Dans quelques instants sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.